Ville Monde. Dernière aventure Ville Monde, après la Tamise et Londres, last but not least, la Méditerranée et le sud de l'Italie, Napoli. Naples, Ville Monde, voyage entre terre et ciel, royaume et porte d'enfer, visible et invisible. Intense cité, comme l'écrit Ian Fleming dans Thrilling Cities, ville d'aventure. Naples, Ville Monde, première escale. Bon voyage sur France Culture Sans Frontières. Ville Monde, école de Naples.
J'aime pas Naples. Non, je trouve que c'est une ville magnifique. C'est une ville qui peut donner des choses énormes, mais il faut être capable de vivre ça. Autrement, c'est une ville qui tue. Que peut tuer parce que elle est trop intense. Il y a pas de, j'ai déjà dit chiaroscuro. Il y a pas le, il y a seulement le noir et la luce. Il y a pas de nuance. Et si tu n'as pas de nuance, tu es toujours intrappolata, emprisonné, parce que tu vas d'un côté à l'autre, et c'est toujours l'intensité. Donc tu peux exploser un petit peu. Donc Naples, c'est pour devenir une ville très, elle est fatigante. Tu es entouré par le monde entier, tout le temps tu as les gens autour de toi, et tu dis ah! Naples pour moi, c'est la ville la plus intense que je connais. Et donc la plus dangereuse.
Naples, si c'était un animal, quel animal ce serait ?
Naples.
Le renard, par rapport au fait qu'ils sont certaines pauvretés et en même temps astucieux.
Naples, un animal. Naples. Un dragon japonais. Car Naples était douce et très amicale. Mais si on l'enrage et on enrage sa bouche, le Vésuve, on risque de se brûler.
Si la ville c'était un animal.
Ah, la faccia della medusa. La face de la méduse, qui change toujours.
C'est difficile. Il y avait des animaux mythologiques qui étaient moitié quelque chose et moitié des autres choses. Il y en a plein sur les cathédrales gothiques. Ils sont capables de faire plusieurs choses et peut-être ils n'existent pas. C'est un peu quelque chose comme ça, je crois.
On ne voit rien. C'est la ville des tours de passe-passe et des illusions. On voit les rues qui descendent vers la mer, le linge qui sèche devant le ciel. On voit les églises et les places, on voit les sculptures dans les chapelles, la splendeur de ce passé qui brille, une ville déchue peut-être, mais qui traite ses innombrables trésors en souveraine, sans obéir à d'autres lois qu'aux siennes. Ici, on peut bien être pauvre et vivre dans un palais, et chaque jour passer sous un porche dont les fresques s'effacent, gravir des escaliers voulus par des seigneurs éveillés par des statues. Ici, les cloîtres sont habités par des sœurs, les églises ne sont pas vides, les morts ne sont pas ignorés, Ici, les œuvres respirent avec les vivants, sans en être séparées par des vitres ou des alarmes. À chaque rue, ce sont des façades somptueuses, mais les mousses, les fleurs, les plantes poussent presque n'importe où entre les pierres. On voit qu'ici, le mouvement n'est pas interrompu et que la roue du temps fait son travail. Dessine, efface, adoucit, détruit. On voit les sortilèges, la beauté offerte, on voit une ville prodigue qui donne aux passants comme aux habitants. On ne voit pas les souterrains, le labyrinthe, on ne voit pas les échanges, on ne voit jamais l'argent. On ne voit pas le contenu des cargos, on ne comprend rien au visage, on n'entend pas la langue secrète de la ville. De temps en temps, on croit deviner quelque chose et certainement, presque toujours, on se trompe. On voit les visages souriants, dans les rues la musique, les chansons, on voit les vespas des garçons, leur arrogance joyeuse. La corruption, l'exploitation, les menaces, la tension, on ne les voit pas. On voit les fruits sur les étals, mandarines, citrons, les gâteaux dans les pâtisseries, les nappes de papier dans les restaurants. On a entendu pourtant que l'eau des maisons n'est probablement pas potable, que la terre de la Campanie, comme tout le sud de l'Italie, est saturée de déchets toxiques. On voit les ruelles qui dégringolent, des glycines qui se jettent de l'autre côté du mur, des sous qui montent et descendent d'un immeuble à l'autre. Mais on sait que mieux vaut ne pas entrer dans certains quartiers. On voit les bars la nuit, cette gaieté, la beauté désinvolte des jeunes. On ignore les yeux à la fois trop malins et trop doux des enfants de 8-10 ans qui vendent des briquets à 2h du matin en riant. À quoi Naples résiste-t-elle? À rien, disent certains. Et c'est peut-être justement là qu'est sa force de résistance. À l'argent et à la pauvreté, au pouvoir et à la camorra, à la vérité, au mensonge, au flux puissant du monde qui l'irrigue. La politique, une certaine idée de la politique, la droiture ou la noblesse, comme on voudra, ont des visages différents. Par exemple, ceux de certains juges, ceux de certains journalistes, dont le désormais célèbre Roberto Saviano qui a publié il y a 10 ans « Gomorra », une enquête best-seller sur la Camorra. Par exemple, celui de Gerardo Marotta, fondateur de l'Institut de philosophie, qui s'est ruiné pour tenter de conserver l'extraordinaire bibliothèque de son institution, en vain. Par exemple, le visage de certains éditeurs, d'écrivains, d'artistes, ou celui de Marco Rossi Doria, maître de rue, comme il dit, et de sa femme Anna Maria, institutrice. Ces voix dessinent une autre ville encore, presque invisible elle aussi, et cependant résonnant, répondant, transformant, puisant sans doute dans Naples même des forces d'opposition et d'invention permanente, tellurique. Nathalie Haitzig.
Là, via les tribunali, quand on marche sous les arcades avec tous les magasins, qui sont en partie gothiques, en partie par toutes les époques se mélangent, on voit les colonnes qui sont des colonnes romaines. Donc il y a la base, il y a le fût de la colonne est là, c'est ce qui a servi à construire le voilà, cette extraordinaire galerie qui est dans un état de délabrement. Personne n'y fait attention, ni les gens qui vivent là, ni les touristes qui marchent. Personne ne regarde ça, personne ne voit, parce qu'en fait, rien. Ceci existerait à Florence, il y aurait on aurait tout nettoyé, tout refait, les panneaux indiqueraient la beauté de cette... Mais là, on en a partout, donc toute la ville est faite d'imbrications de l'Antiquité, qui est la norme. Toutes ces colonnes romaines qu'on voit à gauche, à droite, dans mon palais aussi, il y a à droite un hôtel qui est un hôtel votif, qui est posé là comme pour rien. Tout ça fait partie d'un univers intact, voilà. L'industrie du tourisme, en fait, n'a pas encore pris possession. Voilà. Cette ville continue à vivre. Certes, il y a des télévisions, sûrement avec des écrans plats dans le moindre basso, et tout le monde regarde les chaînes de Berlusconi, et donc le monde vestimentaire qui va avec... est très visible, voilà, à des dégâts, mais ce sont des dégâts moins graves, c'est-à-dire que tous ces vêtements partiront aux ordures La ville, pour l'instant, n'a pas été touchée. Elle n'a pas été encore vendue par les politiques aux constructeurs. On n'a pas jeté les habitants qui sont là depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que ceux que vous voyez là, ce sont les descendants de ceux qui étaient là dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Quand les Espagnols sont arrivés, ils étaient dans les quartiers de garnison qui étaient à l'extérieur de la ville, mais certainement des tas de gens sont mariés. Donc il y a eu un apport espagnol, il y a eu des apports français au moment de... enfin, à différentes époques. Mais néanmoins, ce sont toujours les habitants de là. Ils habitent sur leur territoire. Si on habite là, on n'a pas le droit de se déplacer de 500 mètres, même pas de 35 mètres. C'est la division d'un quartier à l'autre, qui est une frontière, qui sont toutes ces colonnes d'Hercule qu'on traverse sans le savoir. Donc les gens qui sont là sont encore là. Ils n'ont pas été chassés. C'est le rêve, évidemment, des politiques qui ne pensent qu'à... C'est un marché financier considérable. Nettoyer le centre historique de ses habitants pour le donner à qui pourra gagner beaucoup d'argent. Un, avec le prix des mètres carrés qui ne valent effectivement pas cher aujourd'hui et qui, une fois que la ville aura été entièrement refaite, fera gagner beaucoup d'argent. Alors, les Napolitains ont une caractéristique, c'est en fait ils se défendent incroyablement. Voilà. Donc, pour l'instant... la ville est reniée par la vieille ville est reniée par l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à chasser des habitants. Il suffit de dire qu'il y a un péril d'écroulement, on chasse les habitants, on laisse pendant quelques temps le temps que les gens se soient habitués à avoir perdu, parce que sinon ça devient très violent, avoir perdu toute leur vie. Et ensuite, c'est en général racheté à bon prix, bas prix, et refait et revendu à des gens qui, heureusement, pour l'instant, ont très peur de venir habiter. Donc le marché ne fonctionne pas très très bien. C'est un début. Voilà, le monde devrait changer ici aussi, à moins d'un nouveau tremblement de terre, une éruption de Vésuve, qui finalement, d'une certaine façon, sauverait les habitants qui ne seraient pas chassés. Alors, je défends les habitants. Je suis contre cette volonté de donner cette ville à qui elle n'appartient pas. Ceux de l'extérieur qui l'ont laissé se dégrader en abandonnant leur palais, qui l'ont laissé aux habitants, mais elle appartient à ceux qui vivent ici. Voilà. J'espère qu'ils tiendront très longtemps. J'espère que la ville ne sera pas traversée par ceux qui descendent de ces bateaux abominables, qui arrivent à ces bateaux de 12 étages, comme à Venise, comme ailleurs, et qui traversent la ville par mille derrière des... sans rien faire, sans rien acheter, sans rien voir. Sans rien qui dégrade en fait. Et en plus, cette modernité de ce tourisme, qui est vraiment une industrie qui rapporte énormément d'argent, mais qui rapporte énormément d'argent à ceux qui ont des bateaux, ou au port, à la ville, puisque les bateaux payent, je ne sais pas, 100 000 dollars, 100 000 euros par 24 heures à quai. Mais c'est à cause d'eux qu'on finira par chasser les habitants de cette ville. Ils sont encore très nombreux, on entend des enfants qui passent. Pour ces bateaux, il faudrait changer les sols de la ville pour qu'une Américaine ne puisse pas tordre le pied qui pourrait attaquer la ville. On doit enlever tous les étals, toute cette rue est faite d'étals. Les compagnies d'assurance qui fonctionnent avec ces bateaux gigantesques demandent à ce qu'une ville soit nettoyée. Il faut des bancs tous les temps de mètre, des toilettes tous les temps de mètre, que personne ne puisse se cogner à quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour qu'on vienne visiter la ville comme si c'était un zoo, il faudrait changer le mode de vie de gens qui vivent là depuis la nuit des temps. Voilà. Et on en est là, c'est vraiment le moment de l'histoire à laquelle on est arrivé. C'est-à-dire que cette ville va-t-elle tenir ou va-t-elle tomber ?
Est-ce que tu la vois mieux, la ville, depuis que tu es partie ? Ou tu la vois différemment ?
Antonella Moscati.
Ça, c'est difficile à dire parce que la ville, entre-temps, a changé. Donc, la ville de mon adolescence et de ma première jeunesse, c'était une ville beaucoup plus accueillante, d'une certaine manière, beaucoup plus facile aussi. J'ai vraiment des souvenirs d'une période très, très, très belle de ma vie. C'était à peu près au moment de... entre la fin du lycée et mes études universitaires. Où vraiment, ça veut dire la fin des années 70, où il y avait vraiment, à ce moment-là, plein de cinémas qui s'ouvraient. Il y avait des cinémathèques, j'ai vu des choses assez extraordinaires. Il y avait une vie culturelle qui était sûrement mieux qu'à Rome, par exemple. Il y avait des gens de théâtre qui sont formés à cette époque-là, il y avait des écrivains. Et là, j'ai des très grands, beaux souvenirs, même par rapport au quartier de où je suis née et où j'avais mon lycée. Par exemple, ça voulait dire pour moi vraiment m'approprier d'une partie beaucoup plus grande de la ville, aller dans des autres quartiers, dans des espaces différents, parce qu'il y avait des... Tous ces endroits, c'était très délocalisé, donc... Ça, c'était pour moi quand même une vraie croissance.
C'est dû à quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, politiquement?
Moi, je pense toujours qu'un des grands problèmes, ça a été vraiment le tremblement de terre de 1990, parce que avant, Naples était une ville assez pauvre, mais toujours avec une bourgeoisie assez petite et assez restreinte. Mais... où la pauvreté avait une je ne sais pas comment ça se dit en français, il y a un mot italien très spécifique pour ça, c'est le mot degrado, je ne sais pas si ça se dit en français, degrado. C'est des, comment dire, moi je pense à ça comme des grands espaces nouveaux, désaffectés, c'est pour moi l'image de ça. Tandis que la ville avant, c'était vraiment plutôt dans le centre historique, qui est d'ailleurs un des plus grands d'Europe, avec des enfants qui jouaient dans les rues, et vraiment ce qu'on imagine de Naples, un peu comme Naples mythique, quoi. Tandis qu'avec le tremblement de terre, quand il y a eu la reconstruction, parce qu'il y a eu beaucoup d'immeubles qui avaient été touchés, il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré, en fait. Et quand il y a des grandes masses d'argent qui rentrent dans une ville pauvre, d'un coup, tout change, quoi. Il y a tout de suite, au moins dans le sud d'Italie, c'est une des raisons pour lesquelles... puis après, il y a des choses comme la Camorra, la mafia, etc. C'est-à-dire de l'argent de l'État qui arrive d'un moment à l'autre et dans une ville qui est pauvre. Et tout le monde, à ce point-là, fait tout pour s'occuper de cet argent. Et alors, il commence aussi des activités absolument illégales, etc.
Naples est né 7 siècles avant Christ, comme nouvelle ville.
Marco Rossi Doria.
Déjà que 7 siècles avant Christ s'appelait nouvelle ville, ça dit quelque chose. Néapolis. C'est une âge très très ancienne, mais d'autre part c'est pas comme ça, c'est vraiment pas comme ça, c'est pas comme ça pour moi, parce que moi j'ai toujours travaillé avec des gens jeunes.
Est-ce que la ville pour vous ça a été une formation, vivre et grandir dans cette ville? Est-ce que c'est une école, Naples?
Bien sûr. Je pense que toutes les villes sont des lieux d'apprentissage, d'éducation, de découverte du monde. Et les villes qui sont plus capables d'avoir des lieux, des expériences d'apprentissage diffus, pas seulement dans les murs des écoles, sont des villes éducatives. J'ai habité à Naples pour la plupart de ma vie. Et je suis instituteur d'école primaire depuis 1975. Et je me suis occupé de politique publique dans le domaine de l'école de base et de l'inclusion des enfants et des adolescents dans le système scolaire et de la formation italienne. Et aussi de politique publique contre la pauvreté. Donc contre la pauvreté éducative et la pauvreté tout court.
Ce qui est visible quand même, qui a changé, c'est une certaine violence. Violence des corps, violence des qui a toujours eu, hein, je dis, dans le bien comme dans le mal, parce que la moyenne de quand le bruit il est toujours très haut, les gens crient tout le temps, et ils se parlent entre eux dans des distances, ils parlent très haut et tout, mais maintenant c'est une violence. Je dis, avant il y avait une violence naturelle des corps, je sais pas comment on dirait, maintenant il y a une violence voulue.
La ville, elle est devenue plus agressive?
Oui, moi je dirais.
Donc paradoxalement, elle a été comme épurée, entre guillemets, puisque tu dis que le centre de Naples c'est plus sûr que ça l'était.
Oui, mais naturellement, plus sûr et moins sûr, parce qu'avant il y avait des petits cambriolages, des petits voleurs, mais de façon plutôt personnelle, tandis que maintenant c'est beaucoup plus organisé. Donc si jamais tu te trouves dans un... Par exemple, dans certains quartiers, même à l'intérieur de la ville, comme Sanita, etc., il peut y avoir des gens qui s'entretuent, ce qui est naturellement infiniment plus violent. Donc, je ne peux pas dire que c'est une petite violence personnelle qui est beaucoup moins présente, ou bien la douceur du voleur qui te, avec une énorme gentillesse, te volait tout l'argent, mais... Je dis qu'avec qui tu ne te traumatisais jamais, je veux dire. Mais tu ressens une violence plus... Tu la ressens quand même. Tu la ressens. C'est une violence plus organisée.
Les bateaux entrent et sortent en bon ordre. Du moins, c'est l'impression qu'on a en les observant depuis la terre ferme. Et pourtant, 150 000 containers transitent chaque année par ici. Des villes entières de marchandises se dressent sur les quais avant d'être emportées ailleurs. Chaque fois que je vais sur ce quai, je me perds. On dirait une construction en Lego. Un coin du quai ressemble à un mur de nid de guêpe. Des nids hybrides qui le remplissent tout entier. Des milliers de prises électriques alimentant les containers destinés à la nourriture surgelée, dont la queue est attachée à chaque nid. Tous les bâtonnets de poissons et les surgelés fins d'us de la planète sont entassés dans les conteneurs réfrigérés. Quand je vais sur ce quai, j'ai le sentiment de voir l'endroit que traversent toutes les marchandises produites par l'espèce humaine. Le lieu où elles passent leur dernière nuit avant d'être commercialisées. C'est comme scruter l'origine du monde. En quelques heures transitent par le port les vêtements que porteront les adolescents parisiens pendant un mois, les bâtonnets de Colin qu'on mangera à Brescia pendant un an, les montres qui orneront les poignets des Catalans, la soie qu'utilisera tout le textile anglais pendant une saison. Les biens ont des nationalités multiples et bâtardes. Ils naissent pour moitié dans le centre de la Chine, puis sont assemblés dans quelques banlieues d'Europe de l'Est. Ils sont conçus et développés dans le nord-est de l'Italie, fabriqués dans les Pouilles ou au nord de Tirana, puis se retrouvent dans quelques entrepôts européens. Les marchandises possèdent par essence un droit de libre circulation qu'aucun être humain n'aura jamais. Toutes les portions de route, tous les itinéraires officiels ou accidentels débouchent sur Naples. Roberto Saviano, Gomorra.
J'ai choisi d'être marginale.
Anna Maria Rossidoria.
Parce que pour moi, c'est impossible de me confronter avec l'intensité de la ville. Ça veut dire que je pense que Naples, c'est une sorte de... Elle est vorace. Et je la sens comme un petit peu monstrueuse. Parce que vraiment, tout est en dehors. La passion de Naples, non, la passion de Naples, je l'ai. Parce que vraiment, c'est de la violence que je sens. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, hurler. Et c'est pas que je suis pour la civilisation, l'éducation. C'est qu'il faut contrôler un petit peu l'émotion. Parce que vraiment, autrement, on peut mourir. On peut mourir.
Est-ce que tu sens ça aussi chez les enfants? C'est-à-dire l'absence de contrôle des émotions?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est le problème principal que j'ai avec les enfants. Je travaille pas loin de Scampia. Pas loin. C'est pas Scampia, mais c'est presque le même banlieue.
C'est-à-dire une banlieue difficile.
Très difficile. Elle s'appelle Masseria Cardone. C'est le lieu de la famille qui était la plus importante dans la Camorra à Naples. Et oui, là, on a le problème que les enfants, on a pas de contrôle sur l'émotion. Ça, c'est un problème d'éducation en général. Hein. Ce n'est pas seulement les enfants du quartier où je travaille. Mais quand même, oui. Il y a toujours, tu sais, on fait n'importe quoi. On fait on ce que veut. On veut se jeter par terre, on se jette. Je veux lancer un objet, je le lance. Et il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas d'indétermination. Je fais, je le fais, j'agis.
Il n'y a pas d'obstacle à son désir, tu veux dire ?
Il n'y a pas d'obstacle à son désir. Il n'y a pas de désir et il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas la construction du désir. C'est le passage à l'acte. Sans construction de rien. Il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas la question du désir, il n'y a pas de limite. Donc, ils sont des enfants qui n'ont pas de corps, et aussi, sont des enfants qui n'ont pas la possibilité de penser, parce qu'ils bougent tout le temps. Si on agit, on bouge. Si on bouge, on ne peut pas s'arrêter. Si on ne s'arrête pas, on ne peut pas penser. Donc, c'est très, très difficile de l'aider.
Comment tu travailles avec ces enfants ?
Bien, parce que je l'aime beaucoup. J'aime travailler avec les enfants. Je connais le quartier. Ça fait 30 ans que je travaille là-bas. Je connais très bien les familles. Donc, je peux me dialoguer avec les mères et j'essaie de construire une sorte d'alliance.
Une alliance
avec les familles parce que je pense qu'il faut aider les mères pour aider les enfants et j'essaie de leur donner des mots sur le monde et aussi de leur faire des expériences qui ouvre leur monde, qui est très petit. C'est un monde fait de rien. Fait de télé, de la rue, des parents qui sont là, mais ils ne sont pas là, des adultes qui hurlent tout le temps, qui les exposent à tout. Il n'y a pas de protection. Et ce sont des enfants qui voient n'importe quoi. Même le père et la mère, ils dorment dans le même lit, dans la même chambre, qui voient la télé jusqu'à 3 heures du matin. Donc il y a des programmes qui ne sont pas bons pour les enfants et qui parlent comme les adultes avec des mots horribles. Parce qu'ils sont la mère qui hurle et qui dit des mots, mauvaises paroles, les parolacce. Je ne sais pas dire en français, mais la chose, c'est la pauvreté de l'expérience qui me frappe beaucoup. Donc j'essaie de leur donner ça.
Pikachu et moi nous sommes baladés et il m'a parlé des gamins du clan, la grande force des Dilaoro. Je lui ai demandé où ils se réunissaient. Et il a proposé de m'y accompagner. Tout le monde le connaissait. Il voulait me le prouver. Le soir, il se retrouvait dans une pizzeria. Avant d'y aller, nous sommes passés prendre un ami de Pikachu qui faisait partie du système depuis quelque temps. On l'appelait Tonino Kit Kat parce qu'il dévorait des tonnes de barres chocolatées. Kit Kat jouait les petits durs, mais je me suis montrée sceptique. Je lui ai posé des questions auxquelles il n'avait pas envie de répondre. Alors, il a soulevé son pull. Sa poitrine était couverte de bleu, tous parfaitement ronds. Au centre des disques violacés, il y avait des traces jaunes et vertes. Comment tu t'es fait ça ? Le gilet. Quel gilet ? Le gilet pare-balles. C'est pas le gilet pare-balles qui fait ça, si ? Les aubergines, c'est les balles que j'ai reçues. les bleus, les aubergines, sont les traces que laissent les balles arrêtées par le gilet un centimètre avant de pénétrer la chair. Pour les habituer à ne pas avoir peur des armes à feu, on faisait porter un gilet pare-balles à ces gamins, puis on leur tirait dessus. À lui seul, un gilet ne suffit pas à dissuader quelqu'un de fuir face à une arme. Ce n'est pas un vaccin contre la peur. La seule façon d'anesthésier toute peur était de montrer comment on pouvait neutraliser les armes. Ils me racontaient qu'on les emmenait dans la campagne, on leur faisait enfiler un gilet pare-balles sous leur t-shirt et on vidait sur eux un demi-chargeur, l'un après l'autre. On les enrôle dès qu'ils sont assez âgés pour être fidèles au clan. Ils ont de 12 à 17 ans. Beaucoup sont fils ou frères d'affiliés. D'autres viennent de familles en situation difficile. Ils forment les nouveaux bataillons des clans de la Camorra napolitaine.
Quand il y a eu le changement du gouvernement Berlusconi, l'Europe a demandé à l'Italie de donner des réponses sur des différentes crises, pas seulement financières, évidemment, premièrement financières, mais aussi des autres crises qui, au moment 2014, étaient très graves. Parmi ces crises, il y avait l'échec scolaire, qui avait des nombres très élevés. Et donc, en réponse à ces demandes de l'Union européenne, le gouvernement Monti m'a fait devenir sous-secrétaire d'État à l'éducation. Et donc, je me suis occupé, si vous voulez, des mêmes choses au niveau du gouvernement. Et dernièrement, pendant très peu de temps, j'étais aussi assesseur à la ville de Rome, à la capitale, pour les mêmes politiques, pour les banlieues et pour la pauvreté, les jeunes et l'éducation. Il y a un mouvement dans le monde pour les villes éducatives. Naples, en 1991, avait essayé de participer à ce mouvement. Il y a eu beaucoup de rhétorique sur ça. La ville des enfants, la ville des adolescents. Mais c'est resté de la rhétorique, de la démagogie. Mais en même temps, beaucoup de gens, les écoles, les éducateurs, les églises, des mouvements culturels importants se sont développés. Et on essayait de rendre cette démagogie vraie. Et il y a eu un grand mouvement. Et moi, j'étais évidemment part de ce mouvement. Et dans ce mouvement, avec des autres, on a promu le mouvement des maîtres de roue, le projet Chance, qui a eu la capacité, si vous voulez, de faire une grande innovation, c'est-à-dire les enseignants allaient vers les enfants qui n'allaient plus à l'école, en les cherchant dans les rues, en les cherchant partout. Donc, il y a eu des expériences qui ont pris sérieusement les mots des politiciens, malgré eux.
Est-ce que c'était facile de faire venir les enfants à l'école ?
Il faut avoir une vision des choses fondée sur l'innovation. Tu ne peux pas présenter à des adolescents de 14-15 ans qui ne vont plus à l'école une école pareille à celle qu'ils ont abandonnée. Il faut faire un autre type d'école. Et c'est ça, justement, que c'était la base de cette innovation. Quel type d'école on fait pour...
Robé, c'est quoi un homme sans diplôme et avec un pistolet? Un con avec un pistolet. Exact. C'est quoi un homme avec un diplôme et sans pistolet? Un con avec un diplôme. Exact. Et c'est quoi un homme avec un diplôme et un pistolet? Un homme, papa. Bravo, Robertino. Roberto Saviano, Gomorra.
Nous, ici, on l'a fait d'une façon assez riche et reconnue parce qu'on a eu des fonds nationaux qui provenaient d'une loi, à faveur des enfants en difficulté et pour les droits des enfants. On a essayé de mettre d'accord des éducateurs professionnels avec des enseignants. On a construit une supervision pédagogique et aussi une supervision de type psychologique, psychanalytique, parce qu'ils étaient des enfants, évidemment, pas seulement pauvres, mais avec des problèmes. Ce n'est pas la pauvreté seulement, c'est des blessures profondes dans la famille, dans le contexte. Et donc, il s'agit de, sans avec ça, penser de faire une psychanalyse dans les écoles. Évidemment, ce n'est pas ça. Mais de y tenir compte sérieusement dans le travail de relations éducatives avec ce genre de problèmes. Donc, ça a été un travail complexe qu'on a fait pendant des années avec des supervisions très sérieuses et qu'on a aussi porté dans l'Europe. On s'est confronté, on a discuté. Mais la politique n'a fait pas sa part, c'est-à-dire n'a pas su soutenir dans le temps, avec continuité, cette grande expérience.
Pourquoi?
Parce que ils n'ont jamais pensé à la chose comme une chose politique, en sens propre. Polis, la ville, justement, la ville éducative. Ils ont pensé avec la tête dans la petite politique. Ça convient ou ça convient pas aux politiciens.
Est-ce qu'il y a une différence dans l'éducation des filles et des garçons?
Dans leur comportement? Pas vraiment l'âge, parce que je suis institutrice de l'école maternelle, donc c'est 3-6. Pas vraiment cet âge-là. Après.
Après, il y a quel type de différence?
La différence est que la fille est construite pour devenir mère très tôt et de suivre les enfants et de ne pas travailler. Donc, c'est toujours la famille, la responsabilité de la famille. Pas de culture, donc pas d'éducation. Et les garçons, malheureusement, sont forcés à expérimenter la vie de la rue et probablement devenir liés à la camorra du quartier. Parce que la pauvreté fait que la camorra donne du travail et elle paye très bien. Et aussi, quand il y a des problèmes avec quelqu'un qui est en prison, la camorra soutient la famille. Soutient la famille en donnant des sous. Et donc, tu sais, c'est une sorte de welfare bien organisé.
De sécurité sociale.
Et sécurité sociale. Donc, c'est quelque chose de très difficile à combattre. Et on sait, je le sais. Je vois mes enfants et je sais que je vais les perdre pendant le processus de l'école. Je le sais. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de futur. C'est horrible. Tu sais que peut-être quelqu'un, peut-être, même des garçons très intelligents que j'ai eus et j'ai... Tu sais, quand tu es institutrice, tu sognes, comme tu dis. Ouais. Tu rêves de le voir... grand et avec une position peut-être avec un, et je l'ai perdu tous, c'est incroyable. Je travaille, ça fait 30 ans, donc j'ai vu beaucoup d'aide. Personne a continué à étudier, personne travaille, sont presque liés à la camorra de 50%. Et donc, c'est vraiment désespérant.
Tu les croises parfois dans la rue? Tu les revois parfois?
Oui, des fois, mais tu sais, je passe juste le temps d'arriver, d'aller à l'école, et après, je rentre ici, donc je les vois. Et des fois, ils viennent te saluer et pour raconter des choses, mais ce sont des racontes tristes. Non, tristes. Ça veut dire, même la fille qui t'arrive avec trois enfants à l'âge de 17, tu dis, alors, tu dis non, rien n'a changé. Sa mère, à même âge, avait trois enfants, et à 17 ans, a trois enfants avec elle. Donc, tu sens que les choses que tu as faites, que tu as données, que tu as essayé de faire, sont servies à rien. Et ça, c'est l'autre côté de la ville qui est très difficile à soutenir.
Si c'était un des quatre éléments, l'eau,
aria.
L'air.
Feu. À cause du volcan, à cause de l'ébullition pérennelle de la vie, à cause, voilà, le feu, il est partout. Parce que même fumée, feu et tout ça, sûrement pas la terre.
La terre.
Un des quatre éléments.
Ah, quoi?
Banalement, le feu, puisqu'on est sur des volcans.
Si c'était un des quatre éléments?
Non, là, je ne réponds pas parce qu'à Naples, il y en a tous les quatre. Et ça, c'est sûr, c'est dans l'archétype de la ville. En particulier, le feu, l'eau, mais aussi la terre, l'air, oui. Tous les quatre, dirais-je, sont très forts. Peut-être c'est la ville, au moins de l'Europe, où ils sont évidemment les plus forts. Présente tous les quatre. C'est une ville difficile. Il y a la tendance à déconstruire tout le temps. C'est un état fort avec les faibles et faible avec les forts. Ça, c'est l'histoire de, pas seulement de Naples, mais de l'Italie. C'est une phrase très fameuse d'une méridionaliste du début du siècle dernier, Salvemini, et Gaetano Salvemini. Et c'est toujours vrai, je crois.
J'ai cru comprendre que à Naples, il y a quand même beaucoup de gens qui ont espéré que vous seriez maire.
Beaucoup de gens. J'ai obtenu à peu près 25 000 voix face à une ville de 900 000 personnes et 600 000 potentiels électeurs. J'ai obtenu le 3,4% des voix.
Mais est-ce que...
C'était pas beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire que le vote est complètement libre?
Le vote n'est jamais complètement libre.
C'était en quelle année?
C'était 2006. Puis je me suis présenté aux primaires du Parti démocrate. Et le Parti démocrate, qui était très démocrate, a empêché les primaires. quand je me suis présenté. Et donc, à ce point-là seulement, je me suis présenté tout seul avec une liste indépendante. Maintenant, M. Bassolino, qui veut se présenter encore une fois maître de Naples et veut être dans la compétition du Parti démocrate, dans les primaires du Parti démocrate dans quelques semaines, a dit qu'il défend le principe des primaires pour le Parti démocrate. Mais en effet, il a arrêté le processus des primaires du Parti démocrate quand je me suis présenté en 15 minutes. Il était le chef absolu de la scène politique de la ville, évidemment. Peut-être il a changé d'idée, mais il faut le dire, j'ai changé d'idée. Je me suis trompé. C'est intéressant de penser sérieusement à l'idée de maire de Naples. On a eu des maires normaux. Puis, après la loi sur l'élection des maires, partout en Italie, on a cherché des maires taumaturges, mythologiques, des sauveurs de la patrie. Quand il y a des sauveurs de la patrie, ça c'est danger pour la patrie et aussi pour les sauveurs de la patrie, parce que s'ils ne sauvent pas la patrie, ils deviennent des bêtes sacrificales. Naples, c'est l'exemple le plus clair de ça. La démagogie, moi je vais vous sauver. Et puis l'échec. Il nous a trahis, non? C'est une scène de grave faiblesse démocratique. C'est pas le problème de se présenter à maire. Le problème, c'est avoir une classe dirigeante, une classe politique capable de demander aux citoyens de faire leur part et donc de sortir de cette scène faible en essayant de faire un mouvement que s'appelait « Nous décidons ensemble, décidiamo insieme ». On a essayé de poser cette question, mais les conditions de l'illusion et de la désillusion étaient très fortes. Et je crois qu'on est encore là. On est arrêté là. Il y a une faiblesse de la démocratie en général et à Naples en particulier. Ce n'est pas une question de personnalité seulement. Au niveau de la politique, peut-être c'est aussi, sûrement c'est aussi ma faute, mais sûrement je n'ai pas gagné. J'ai toujours perdu. La politique m'appelle quand ils ont un problème à résoudre, un peu comme dans le film Pulp Fiction. Je suis comme Wolf. Il m'appelle et je dois résoudre des petits problèmes, mais ce n'est pas vraiment un dialogue avec la politique.
J'ai compris que une chose que je ne supporte pas, que tu comptes si tu occupes une sorte de position
sociale.
Et ça, pour moi, c'est une chose insupportable.
Mais plus que
ça veut dire, c'est pas l'intelligence, la compétence, la professionnalité qui compte, mais c'est la position que les gens de pouvoir te donnent ou tu occupes parce que tu aimes occuper cette place-là. Donc j'ai fait un choix de marginalité dans la profession. Je suis institutrice tout le temps dans le même lieu. C'est la banlieue de Naples que je connais très bien. Et aussi, j'évite l'externation de la personnalité de Naples. Et parce que vraiment, pour moi, c'est trop. Et donc, j'ai une sorte de vision de la ville un peu particulière. Ça veut dire que j'ai des parties de la ville. J'ai la promenade que je fais parce que je trouve que le golfe de Naples est magnifique. Donc, je me promène parce que j'aime me promener. J'ai les amis ici. J'ai les enfants avec... je travaille tout le temps. Et aussi, j'ai les musées. J'ai la bibliothèque. J'ai les livres que j'achète. Comme ça. Donc, Naples, pour moi, c'est pas l'unité. C'est fait des parties que je mets ensemble.
Ça veut dire que tu as réussi à découper la ville et à prendre que ce qui était possible.
Pour moi. Pour moi, oui. J'ai fait ça. Le reste, la ville entière, c'est trop pour moi.
C'est une agression ?
Oui. Je l'habille comme ça. Et aussi, on a choisi de vivre dans un quartier qui est très violent, je pense.
Vous avez choisi de vivre dans
ce quartier ? Oui, parce que mais c'est pour des raisons économiques. On n'avait pas de sous, donc on a acheté un bon appartement qui ne coûtait pas trop. Donc c'était lié à ça. Mais Marco, il aime beaucoup se promener dans la ville. Il aime bavarder, parler avec les gens. Et il est content. Moi, je l'ai subi tout le temps. Parce que et je suis capable de répondre, de me confronter. Mais je l'ai subi parce que leur façon de s'exprimer, c'est vraiment de l'abhorrence. Ça veut dire qu'ils s'occupent la ville. Ils occupent le quartier. Et donc, pour moi, je dois tout le temps me regarder pour essayer de rester entière.
Je ne voudrais pas être trop pessimiste. Dans le sens qu'il y a des jeunes générations qui sont dehors des idéologies et des manières de penser du passé. Malheureusement, la plupart d'eux, la potentielle, si vous voulez, classe dirigeante, pas seulement à Naples, mais en Italie en général et dans le sud en particulier, est partie et elle est ailleurs. La ville de Naples, pour la première fois en 2011, est allée au-dessous d'un million d'habitants. Ça n'arrivait du 1951. À peu près le 6 pour 1000 de la population est partie. Chaque année, le 6 pour 1000, pendant les dernières 15 ans, et c'est les jeunes meilleurs, les plus cultivés, d'une part, les gens qui ont étudié, et bien étudié, et qui sont venus à faire les rechercheurs et à travailler à haut niveau, en Amérique et dans l'Europe surtout. Mais c'est aussi la partie meilleure des jeunes pauvres sans éducation des quartiers en crise. Des gens qui ont fait seulement 7, 8 ou 9 années d'instruction, mais qui ont la force de s'en aller. C'est les avant-gardes des quartiers pauvres. Donc on a perdu une tissue potentiel énorme pendant les dernières 15 ans. Ça, c'est le vrai crime de la politique des derniers ans à Naples. Avoir permis ça.
En fait, t'es furieuse.
Ah ouais. Triste. Oui. curieuse et triste, les deux choses. Et c'est le même sentiment que j'ai vers la ville de Naples. Le même. Je suis triste et curieuse. Parce que j'aimerais bien voir la ville risorgere. Non, parce que c'était une ville qui était la capitale d'un royaume. Et là, on meurt. C'est ça la qu'on a la sensation que c'est une ville déprimée, beaucoup, et aussi qui est toujours liée à la mort, non? Et on a ça à Naples, non? C'est dans notre histoire, mais on sent la mort très fortement. Je le sens très fortement.
Et pourtant, t'es vraiment debout, t'as pas l'air du tout découragée.
Oui, mais ça, c'est... Ça appartient à moi. Ça, c'est... Mais j'ai besoin tout le temps de quitter la ville pour retourner. Je ne peux pas rester trop longtemps. Et maintenant, ça fait longtemps que je suis là et je commence à souffrir. Donc, on est parti beaucoup. Ça m'a donné la possibilité de retourner à Naples, d'apprécier de nouveau la ville, de l'aimer encore de nouveau. Mais après, à un moment, j'ai besoin de dire, OK, je vais regarder le monde ailleurs pour reprendre les forces et retourner à Naples.
Quand on s'est écrit, tu m'as dit, on n'est pas un citoyen de Naples, on est un morceau de Naples.
Oui.
Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Que si tu vas à Naples, tu décides d'y rester pour toujours. Naples t'a apprivoisé. C'est comme si tu en fais une partie. Tu peux t'en aller où tu veux dans le monde pendant des milliards d'années. Mais tu retourneras toujours à Naples. Come senza la vita puoi campare, come senza cuore per pulire, come senza animato vorrei salvare, come senza luoghi per venire, come senza luoghi per venire, come senza luoghi per venire. C'était Villemonde, école de Naples. Come senza la lingua puoi parlare. Avec Anna Maria Rossidoria, institutrice, Marco Rossidoria, maître de rue, Antonella Moscati, écrivain et philosophe, Nathalie Aitzig de Saint-Phal, galeriste et aventurière, Marina Santucci, conservatrice, Sacha Sipani, apprenti alchimiste de 10 ans, Giuseppe Zevola, artiste. Merci à Fabio Casilli, que l'on peut retrouver sur le site de voyage Italy & Co, et à Nathalie Aitzig, qui nous a ouvert les portes de son palais. Le livre Gomorra de Roberto Saviano est publié chez Gallimard. Une émission de Béatrice Leca, réalisation Gaël Gillon, prise de son Marc Garvenès, mixage Bruno Mourlan, coordination Catherine Libert.
Dernier voyage, dernière ville-monde, Vedi Napoli e poi muori, voir Naples et mourir, la radio rend tout éternel. Alors éternellement, les voyages continuent. Vous pouvez réécouter Naples et toutes nos escales à travers le monde, télécharger, podcaster sur le site internet franceculture.fr. Nouvelle escale dans la ville nouvelle Néapolis, Naples, ville-monde, dimanche prochain. Seconde escale, dimanche 3 juillet à 15h. L'été Villemonde, nos dernières rediffusions, ce sera tous les samedis à 19h du 9 juillet au 27 août et une grande traversée villes américaines de 9h10 à 11h du 1er au 5 août. Et dans quelques instants, les racines du ciel.